On va parler de Ruth d'abord. Ruth qui est une Moabite, qui est ce qu'on appelle l'Ima shel Malchut, qui est donc la mère de la royauté. Il y a une Gemara dans Batra qui dit, une Gemara qui parle sur un verset de d'Ivrei Hayamim, des chroniques. Le pasuk dit, Hema hayotzrim v'yoshve netaim. Ils sont les créateurs et celui qui sont et ceux qui sont Yoshvé Netaïm, c'est-à-dire littéralement ceux qui sont assis auprès ou des Netaïm. Et on dit Netaïm, normalement c'est un état, c'est une plante. Mais la Gemara elle est d'Oreshet, elle dit Yoshvé Netaïm c'est Shlomo. Parce que Shlomo ou Domé le Netiya Bimalchuto, il ressemble à une plante dans son royaume. Vegidra et le Geder, la barrière, c'est Sanhedrin, chez Gadru Pirtzotehem chez l'Israël. Sanhedrin est comparé à une barrière, puisque ce sont eux qui mettent des barrières aux tentatives d'explosion, enfin de dérapage, etc., des Bnei Israël. Mamelech bimlachto yeshvusham, zerut, amovia, sheraata bimalchut shlomo ben beno, shel ben bena, sheneemar, yasem kise l'em amelech, c'est marqué dans le pasuk de Shlomo. Dans le Melachim, c'est écrit, il a installé un trône à la mère du roi. Amar Rabbi Elazar, le imash el malchuto, à la mère de son royaume. C'est pas la mère du roi, mais la mère du royaume. Et Rashi dit, pourquoi est-ce qu'il l'appelle comme ça? Sheyatsu mimena kol hamlachim. Les rois sont issus de David, de Ruth. Le Briskero va expliquer cette Gemara, ce verset, à partir du pasuk qui est dans Megillat Ruth. Pardon? Le Briskero, le Rav de Brisk. Yiten Hashem et Aisha Abaha el Betecha, ki Rachel Uchlea, Asher Banu Shtehem et Bet Israël. Le pasuk dit que Hashem donne à cette femme qui vient dans ta maison qu'elle soit comme Rachel et Léa qui toutes les deux ont construit la maison d'Israël. Donc on a donné à Ruth cette bracha d'être quelqu'un qui construit le clan d'Israël comme Rachel et Léa. C'est énorme quoi. Et le Brisco va expliquer que Ruth à Moavia, elle est appelée Imachel Malchut. Elle est appelée la mère de la royauté. Et c'est en ça qu'elle est que Rachel ou que Léa. Parce qu'elles, elles ont construit le clan d'Israël. Et Ruth, elle a construit la royauté, ce qu'on appelle Malchut Beit David. La royauté de David. Il faut comprendre, en fait, ici, que si Ruth est appelée Imash el Malchut, la mère de la royauté. C'est-à-dire qu'elle a un titre de M, de mère. De la même manière que Rachel et Léa sont les mères. Ça veut dire qu'elle fonctionne, Ruth, comme source, comme racine de la royauté. Et ceci, indépendamment du fait que concrètement les rois sont ses descendants, mais elle est la mère de la notion de royauté. Et donc, ce qu'on voudrait essayer de voir, c'est quelle est la dimension de royauté qui s'est dévoilée par Ruth. Et qui lui vaut ce titre de M L'image El Malkout, c'est la mère de la royauté, pas seulement la mère des rois. Dans Rabbeinu Bachaye, dans son commentaire sur l'histoire des filles de Lot, vous voyez bien le lien, les filles de Lot, c'est une d'entre elles va avoir un fils qui va être Moav, qui est donc l'ancêtre de Ruth. La Bechira, la fille aînée de Lot, elle a eu le mérite chez Yatsat Mimenu Ruth à Moavia. Que Ruth, la Moabite, bonsoir, est sa descendante, et c'est son mérite à la fille aînée de Lot, puisque, en fait, Ruth, son nom de Ruth, il est meramez, il fait référence au fait que Ruth a accepté les 606 mitzvot supplémentaires aux 7 mitzvot des Bnei Noach qui font l'ensemble des mitzvot du clan Israël. Et ça c'est l'aîné. Et la plus jeune, Atseira, Shatsat Mimena Naama Ammonit, qui est, cette Naama Ammonit, c'est donc une femme de Shlomo, qui est donc la mère de Rochovam, le fils de Shlomo, celui le roi du schisme. Et donc les deux, toutes les deux, Naama aussi a Ammonit, cette Naama, elle a aussi été zochée au fait d'être partie prenante en quelque sorte dans la royauté de David, parce que Beth David, si vous voulez, le Mashiach, il descend de David, mais par la branche Shlomo. David avait beaucoup d'enfants, mais tous les enfants de David ne sont pas ceux par lesquels la lignée du Mashiach passe. C'est seul Shlomo et celui. Et donc la mère de celui de Shlomo, là, elle a à voir avec la Malchoud, ce qu'on appelle Malchoud Beth David. Donc, d'après ça, le nom de Ruth vient justement de ces 606 mitzvot supplémentaires qu'elle a acquises par sa Gerout, par sa conversion. C'est écrit aussi dans le Midrash Tanhuma. Et le Shla Kadosh aussi, on parle aussi. Et le Gaon, dans son commentaire sur Megillat Ruth, il dit que c'est là le sens de la Gemara. Il y a une Gemara dans Sechet Brachot qui demande, la Gemara demande, Maï Ruth. Qu'est-ce que c'est, Ruth? Amar Rabbi Yochanan, Shezachta v'yatsa mimena David, Sheriveu la Kadosh Baruch Hu b'shirot v'tishbachot. C'est-à-dire, Rabbi Yochanan, il a expliqué le nom de Ruth, non pas avec ses 606 mitzvot, mais Riveu, c'est-à-dire, il a abreuvé littéralement, il a rassasié une boisson, la Kadosh Baruch Hu avec ses chants. David a, avec ses chants, ses louanges, etc., il a abreuvé littéralement à Kadosh Baruch Hu avec ses chants. Et là-dessus, le Gaon a expliqué que, bien sûr, le nom de Ruth, il lui vient vraiment des 606 mitzvot qu'elle a acquises en plus des 7 mitzvot des Bnei Noach. Seulement, la question de la Gemara, c'est, dans ce cas-là, pourquoi elle ne s'appelle pas Tor? Pourquoi Ruth? Pourquoi dans cet ordre-là? Et là-dessus, la Gemara répond, parce que David et son descendant, qui lui a Raveu, c'est-à-dire dans cet ordre-là, Resh Vav, et pas Vav Resh comme dans Tor. Mais Shirot, Shirot c'est aussi Resh Vav, Shirot, c'est pour ça qu'elle s'appelle Ruth et pas Tor. Oui. question qui se pose, évidemment, c'est pourquoi est-ce qu'on a, pourquoi elle porte ce nom de 606 mitzvot supplémentaires. Tous les guérim, tous les gens qui se convertissent, devraient s'appeler Ruth d'après ça. Ils doivent avoir aussi, parce que aussi, tous les gens qui se convertissent, ils ajoutent aux mitzvot qu'ils avaient les 606 mitzvot supplémentaires. Si on explique que son nom de route lui vient des mitzvot supplémentaires qu'elle a acceptées lors de sa conversion, alors tous les guérim ont fait la même chose qu'elle. Qu'est-ce qu'elle a fait de si extraordinaire pour s'appeler elle, route seulement? Et il faut donc expliquer quelque chose du genre que par elle, grâce à elle, tous les guérim qui viennent après elle bénéficient du fait que c'est elle qui a en quelque sorte fondé, au sens où elle a été la racine, la base de cette acceptation des mitzvot, qui fait que tous les guérim qui viennent après elle en quelque sorte sont dans son sillage. Ça veut dire que on a déjà expliqué à d'autres occasions que la Midat HaMalchut, le dévoilement de la royauté en tant que Midat, c'est qu'on accepte le roi. On accepte librement le roi en tant que tel. On accepte son autorité. Et par conséquent, lorsque il y a une volonté de se révolter contre la royauté, et que malgré tout, le peuple continue d'accepter cette royauté, c'est un dévoilement supplémentaire de royauté. Donc à chaque fois qu'il y a une tentation de révolte et que malgré cela on continue d'accepter cette royauté, c'est un dévoilement supplémentaire de la royauté en question. Bon, on sait bien que le monde, il a une finalité, et la finalité c'est que s'accomplisse Ve'aya Hashem le Melech al kol haaretz, que dans le futur qu'Hashem devienne Melech pour le monde entier. C'est-à-dire que même les lieux les plus lointains se rallient en quelque sorte, s'associent à cette royauté et finissent par accepter cette royauté en tant que telle. Et le fait que la royauté d'Hachem, elle se réalise concrètement à travers David et la maison de David, ça vient de ce que dans la racine de la royauté de David, il y a la possibilité de récupérer aussi les aspects de Toumar, d'éloignement maximaux de la gloire divine, de récupérer tout ça et d'être capable de le ramener dans la royauté d'Hachem. Ça correspond à ce qu'on dit dans la prière de Rosh Hashanah. On dit Vishmeur Chokim Viyavou Viitnu Lecha Keter Melucha. Ceux qui sont très loin viendront, se rapprocheront et ils te donneront la couronne royale, c'est-à-dire ils te reconnaîtront comme roi. C'est ça le but de l'exercice, en quelque sorte. Ce sujet-là, cette capacité, elle vient de Ruth. Ruth qui était une Moabite, qui était la fille de Eglon, qui était le roi de Moab. Et du point de vue de son standing, elle aurait dû être en tant que fille du roi, en fait. Elle aurait dû être la plus enfoncée, en quelque sorte, dans la Touma de Moab, puisque elle est la fille du roi, c'est-à-dire celle qui a tous les privilèges de la royauté de Moab, c'est-à-dire au plus profond de la Touma de Moab. Ça veut dire qu'il faut penser à Ruth en se souvenant quelle est la descendance de ceux qui sont doublement maudits, si on peut parler comme ça. Premièrement, elle est une descendante de Lot, et Lot en araméen, ça veut dire klala, ça veut dire malédiction. Layet, ça veut dire maudire. Et deuxièmement, elle est une descendante de Balak. Balak qui est le maudit dans la création. Et malgré tout, elle a été, comme on dit, Chazra, mais Sde Moav. Elle est revenue, elle était dans les champs, enfin dans les territoires de Moab, et elle est revenue, enfin elle est venue avec Naomi, sa belle-mère donc, qui revenait de Moab à Bethléem, dans les territoires de Yehuda. Donc elle a passé, de cet extrême-là, elle est venue se mettre, comme on dit, Tachat Kanfe Ashrina, sous les ailes de la Ashrina. Et c'est ce dévoilement, ce cheminement-là, il dévoile la royauté divine de la façon la plus évidente, puisque elle a passé d'un extrême à l'autre. Elle vient du plus loin, en quelque sorte.
On peut faire un parallèle avec Rivka.
Sauf que Rivka n'est pas dans le monde de la Klala, et que c'est pas exactement la même chose. Lavan, c'est quand même Lavan et Betuel sont quand même la famille d'Avraham. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu, quand il recherche une femme pour Yitzhak, il dit à Eliezer, tu vas dans cette famille-là. A priori, c'est ce que je veux. Ça veut dire ils sont idolâtres, etc. Mais il y a dans cette famille quelque chose qui est particulier. Ils ne sont pas moins idolâtres que les autres, mais ils sont meilleurs en midot. C'est-à-dire, à la limite, c'est peut-être que ce qu'ils ont, c'est qu'il a pu sortir de ces familles. Rivka, mais aussi Rachel et Léa. Et les deux autres, c'est les filles de Lavan. Nous, Lavan, c'est notre ancêtre de tous les côtés. Quand on entend Lavan ou son père, enfin bon, c'est la famille de Lavan. Nous sommes des descendants, enfin, on est descendants d'Abraham Avinu, mais l'autre côté, c'est fortement, puissamment Lavan. Alors, le nom divin qui correspond à l'expression de la royauté, c'est le Shem Adnut, c'est Adon. Or, c'est dans ce cette mida de malchut, en fait, c'est à travers cette mida de malchut que va se, enfin, contre cette mida de malchut que va se développer toute la démarche de manque de kavod, en fait. C'est-à-dire une situation de manque de kavod, afin que dans cette situation de manque, qu'on peut considérer comme un halal, comme un vide, il y ait la possibilité d'accepter la royauté sans aucune contrainte. Le Harizal explique que le Shem Adon, vous savez, sa Gematria, c'est 65. Alors que quand on l'écrit, il y a une autre façon de calculer les Gematriot, c'est que au lieu d'écrire, de faire la Gematria de Aleph 1 plus Dalet qui vaut 4 plus Nun qui vaut 50 plus Yud qui vaut 10, on écrit le Aleph en toutes lettres. On écrit Aleph Lamed P. Oui. Et donc ça fait 1 plus 30 plus 80. Puis ensuite le Dalet, on écrit Dalet Lamed Tav. Bon, ça fait 4 plus 30 plus 400. Et Nun Vav Nun Final. Et Yud Vav Dalet. Quand on écrit comme ça, la Gematria qui résulte ici, c'est 671. Et il dit que ce 671, si on lui enlève les 65 qu'on obtient d'Aleph Dalet Nun Yud, ça donne justement la Gematria de 606 de route. C'est-à-dire qu'en fait, les lettres qui ne s'expriment pas dans le nom Adnout. C'est-à-dire, si dans le nom d'Adnout, si on ne tient compte que du Aleph et pas du Lamet P, et du Dalet et pas du Lamet Tav, et du Nun et pas du Vav Nun final, et du Yud et pas du Vav Dalet qui servent aussi, donc les lettres manquantes, celles qu'on n'entend pas dans la prononciation. Donc, elles ont justement cette gématria de 606. Donc, puisqu'on a diminué, on a enlevé de 671 les 65 qui s'expriment, il reste qui ne s'expriment pas, les 606. En d'autres termes, quand on considère le nom divin et qu'on sépare la partie visible, audible, de la partie inaudible, donc les 65 de la partie 606, route correspond à la partie du nom divin qui est cachée. Dans le nom divin Adon Sera, la partie cachée, c'est la gematria de route, c'est Resh, Vav et Tav. Qu'est-ce que ça veut dire? On va expliquer comme ça. A priori, tous les gens qui font une démarche de Guéroute sont les descendants d'Abraham Avinu. C'est une des raisons pour lesquelles Abraham Avinu porte le nom de Av Hamon Goyim. Il est le père de tout celui qui veut venir se mettre sous Tarat Kanfei Hashrina, et il est le premier justement à avoir nommé un Kadosh Baruch Hu Adon. Le premier à avoir donné ce nom divin-là à Hashem. Donc en quelque sorte, il a inventé, Abraham, c'est l'inventeur du nom Adon. Et Ruth, c'est celle qui a, en quelque sorte, inventé la partie cachée de ce nom. essayer de comprendre ce que ça peut bien vouloir dire, ça. Un autre niveau. C'est le Kvod Shamaim, la gloire divine, qui est justement cachée dans le monde. La lumière divine n'est pas visible dans le monde. Ce Kavod, il a, d'une certaine manière, été dévoilé par Ruth. Parce que c'est elle qui a... Elle l'a inventé, elle a dévoilé en quelque sorte la possibilité de publier la royauté divine, même lorsque la gloire divine est cachée. C'est-à-dire elle qui venait de l'endroit le plus pourri, c'est-à-dire le plus ancré dans la Touma, c'est là où la gloire divine est le moins visible. Elle a fait cette démarche, donc elle a dévoilé la gloire divine dans l'endroit, enfin la royauté divine, elle a accepté la Hadnout, donc la partie cachée de la Hadnout, là où elle était le plus cachée. Au nom du Gaon, on enseigne que Moab, donc qui est le peuple de Ruth, dont la Gematria est 49, pourquoi est-ce que c'est... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Moab, ce sont ceux qui soutiennent les forces de la Touma dans le monde, qui sont pour lesquels il y a les fameux 49 degrés d'impureté, c'est eux qui soutiennent ça. Et le Gaon explique que la racine du mal dans le monde, le principe de cette racine, en quelque sorte, c'est les deux filles de Lot. Elles correspondent, dit le Gaon, au Yetzerara Ta'avani, au Yetzerara Ka'asani. C'est le Yetzerara qui est de l'ordre du désir, de l'envie, et il y a un autre aspect du Yetzerara qui est le Ka'as, qui est la colère. Il y a deux parties dans le Yetzerara. Il y a ce qui est de l'ordre du désir, et puis ce qui est de l'ordre de la colère. Et donc les deux filles de Lot représentent ces deux aspects. Et puisque la malchut, la royauté de David, doit se transformer, ou plus exactement, elle doit transformer toute la Touma en kavod de la royauté, en poids donné à la royauté, il faut que les 49 degrés d'impureté deviennent 49 degrés de pureté. Et ce n'est que comme ça que la couronne de la royauté peut être dévoilée par le Mashiach, qui est l'aboutissement du processus. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu a dit, je ne veux pas détruire complètement, il faut que je sauve Lot, parce que j'ai encore directement des processus très importants qu'il faut que je des perles en fait quelque chose que je dois extraire de cette gangle route de Moab et Naama la Ammonite de Ammon. Ça veut dire que Ruth est séparée de Moab de telle sorte que puisse s'accomplir le pasouk du Navi qui dit qui aza foch ele amim safa brura likro kulam b'shem Hashem le ovdo shchem echad. à ce moment-là, c'est le temps du Messie du Mashiach, tous les peuples parleront une langue claire et tous diront, reconnaîtront le nom divin et ils accepteront tous de le servir, mais totalement volontairement. Ce qu'on peut encore expliquer, d'après ce que un élève de toujours du Gan explique, que si on prend Ruth et David ensemble, la gematria de Ruth et de David, c'est la gematria de Keter, de la couronne. Ruth, c'est 606, et David, c'est 14. Donc, ça fait les 620 de Keter. Keter, c'est Kaf, Tav, Resh. Ce que ça veut dire, cette gematria-là, c'est que les fameuses petites couronnes qu'il y a sur les lettres dans le Sefer Torah, qui est en quelque sorte une lumière émanant de la partie cachée des lettres. En fait, quelque part, c'est quelque chose qui est sur les lettres, mais on ne voit pas, ce n'est pas spécifique à chaque lettre, et pourtant, ça reflète quelque chose de la spécificité de la lettre. Et c'est pour ça que c'est la Torah de Rabbi Akiva, qui est le maître de la Torah Shebaal Peh, de la Torah orale. Et donc lui, Rabbi Akiva, à partir de ça, il va extraire des montagnes de chorma, de sagesse. Donc, c'est la couronne de la royauté divine, en fait. Évidemment, elle est visible, elle n'est dévoilée que quand la partie qui jusque-là était cachée du Kavod d'Hachem se dévoile. Quand est-ce que dans l'histoire cette couronne de la royauté s'est dévoilée? C'est évidemment à Shavuot, c'est-à-dire à Matan Torah. Dans les Aseret Hadibrot, dans les 10 paroles, où il y a justement ces 620 lettres, Aseret Hadibrot, il y a Keter lettres, 120 lettres. Et également, il y a aussi que ça correspond à 620. Bon, piliers de lumière, bon, ça c'est du genre un Kabbalah, correspond à toute la réalité. Mais. Et c'est aussi les 613 mitzvot et les 7 mitzvot des Rabbanan qui, elles aussi, forment le Keter, forment la couronne. Gematria 620. Hazal explique que à Matan Torah, les Bnei Israël ont retrouvé la condition qui était celle de Adam Arishon avant la faute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la trace du Nahash dans Chava, la trace du serpent, ce qu'on appelle la Zohama, a disparu à ce moment-là. Ça veut dire que justement, les Bnei Israël ayant franchi les 49 degrés du décompte, donc des 49 jours, pour arriver jusqu'à ce 50e. Et d'après ce qu'on entend ici, quand on parle de Ruth et de David, en eux il y a cette racine de la Touma qu'on appelle Zde Edom, les champs d'Edom. C'est-à-dire que on a compté les 49 degrés d'Edom, et donc ils ont, grâce à eux, tout ça s'élève, tout ce niveau-là d'impureté est supprimé, et tout est monté au fameux 50e degré de pureté. Et du coup, les 50 degrés d'impureté deviennent 50 degrés de pureté. Et c'est l'allusion à ça, elle est justement dans les écrits de cet élève du Gaon, parce que Sde Moav, le champ de Moav, c'est H-A-M-P, oui, de Moav, en Gematria, c'est Mashiach. C'est-à-dire que le Keter Malchut à Elion, la couronne de la royauté, d'en haut, se dévoile comment? Lorsque Sde Moav aussi contribue à la lumière, donc est récupéré complètement et contribue à la lumière du Mashiach. On sait, la Gemara dans Yerushalmi, on sait que David HaMelech est décédé à Shavuot. Et que la raison pour laquelle on a l'habitude de lire la Megillat Ruth à Shavuot, c'est que puisque il est David est à la fois né et mort à Shavuot, et que dans la Megillat Ruth il y a tout l'ascendant, il y a la généalogie de David. Et ça, ce serait ça la raison pour laquelle on lit la Megillat Ruth. Alors, en vérité, c'est vrai que c'est ce qui... Bonsoir. C'est vrai que c'est ce qui est écrit comme justification. Mais c'est un peu paradoxal, parce que... Pourquoi? Parce que il est né à Shavuot, alors on aurait l'obligation de lire Megillat Ruth pour publier l'ascendance de David. Ça veut donc dire ici que il a quelque chose à voir avec le dévoilement qui a lieu à Shavuot. Qu'on lise l'ascendance de David, ça a l'air d'être essentiel à Shavuot. C'est pas simplement pour dire d'où vient David. Donc il y a une opinion qui pense que le klal de la Torah, comme Rabbi Akiva dit que le fondement de la Torah, c'est le fameux « Ve'aftal ve'achakamocha »« Tu aimeras ton prochain comme toi-même », mais il y a une autre lecture qui dit que le fondement, c'est « Zeh sefer toldot adam ». C'est le verset qui dit « Ceci est le livre des engendrements de l'homme ». Et on explique que, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Adam a vu tout ce qui allait, toutes les générations, et il a vu que David figurait dans les générations, dans la liste de ceux qui vont naître. Et il a vu que la durée de vie qui était prescrite, qui était prévue pour David, c'était 3 heures. Il allait vivre 3 heures et mourir. Alors, Adam a prié Hachem. Il a dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et Hachem a répondu, « Kachalta me marchava le fanaï. » Hachem a répondu, « Non, c'est comme ça que j'ai prévu. » Alors Adam a dit, « Et moi, quelle est la durée de ma vie ?» Hachem lui a dit 70 ans. Alors, Midrash dit que Adam a demandé, est-ce qu'on peut faire des cadeaux dans le monde d'en haut? Alors Hachem a dit oui. Alors il a dit, dans ce cas-là, hein, je lui donne 70 de mes années.
De David.
Pardon? C'est 930. Ça devait être 1000 ans. Et il lui a donné 70 ans. Oui. Deux. Aleph, Dalet, Nun et Yud. Aleph, on peut l'écrire complètement. Aleph, Dalet, Nun et Yud. Tu fais la somme ici, ça fait 65. Et si tu fais la somme ici, ça fait 606. Ok? Ça, c'est la partie. Excusez-moi, c'est pas 606. Ça fait 671 avec le tout. Si on enlève ici. 671. Si j'enlève le Aleph, le Dalet, le Nun et Yud que j'ai déjà porté ici, donc il reste que les lettres qu'on n'exprime pas dans le Adnout. Là, il reste, donc avec les 4 barrés, ça fait 606. Donc ça, c'est la partie caché du nom Adnout, et ça c'est la partie visible ou audible, d'accord? Il faudrait comprendre pourquoi est-ce que il fallait que Adam donne une partie de sa vie à David pour que David vive. Et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que David était, il était prévu qu'il vive 3 heures? S'il doit être David Amelach, il ne peut pas vivre 3 heures, je veux dire. Alors, la Gemara dans Sechata Bodazara, elle discute de la faute de David avec Bathsheba. Et la Gemara dit, en fait, la faute que David a commise, c'était une faute qui ne lui correspondait pas du tout. Ce n'est pas le genre de faute que David aurait dû faire. Et on dit qu'il l'a faite pour montrer qu'on peut faire tchouva d'une chose aussi importante. Donc, pratiquement, on voit que David, en tant qu'être humain, il est dans le monde pour montrer la tchouva, pour montrer qu'on peut faire tchouva. Alors, il est bien clair que ce qui était important, c'était qu'il y ait la possibilité de faire des fautes, mais pas que les fautes soient faites. La possibilité de faire des fautes, c'est ce qui fait qu'on a une bechira, qu'il y a un choix possible. Mais ce n'est pas nécessaire que la faute soit faite. Et c'est pour ça que si l'existence de David est là pour montrer la tchouva, il n'était pas vraiment nécessaire que David vive. Parce qu'il n'était pas nécessaire qu'il y ait une réalité de la faute. Et donc, ce qu'on veut dire ici, c'est que dans le projet divin, en quelque sorte, David ne vit pas. Il vit trois ans. Il y a David, quoi, avec la possibilité de tchouva, c'est tout. Or, si dans le monde, effectivement, le monde n'est pas fait pour qu'on faute, concrètement, alors David n'a pas de raison de vivre. Qu'il faut tenir, c'est ce qu'il fallait, c'est qu'il y ait cette idée qu'on peut faire tchouva. Donc on peut fauter.
On rétracte la vie de David à 3 heures.
Donc tout ce qu'on veut montrer, c'est qu'il faut qu'il existe en tant que possibilité de tchouva, mais il n'a pas besoin d'avoir une réalité, de vivre réellement. Il aurait fallu que ça s'exprime, cette possibilité seulement, mais il n'a pas besoin de vivre, parce que si de vivre concrètement. Parce que vivre concrètement, ça voudrait dire que la faute, elle va se faire concrètement.
Oui, mais en 3 heures, il y a une possibilité.
Non, non, mais c'est pas qu'en 3 heures, il aurait la possibilité de ou pas. C'est l'idée qu'il faut que David, en tant que possibilité, en tant que montrant la possibilité de faire tchouva, existe, mais il n'a pas besoin de l'existence pour faire la faute. C'est ça que ça veut dire. C'est pas qu'il. C'est ça qu'on veut dire quand on dit qu'il aurait vécu 3 heures. Et donc, ce n'est qu'à partir du moment où Adam lui-même a fauté, c'est-à-dire que la faute existe réellement dans le monde, concrètement, qu'à ce moment-là, il faut. Du coup, David va exister. Et ça vient de dire que c'est Adam qui lui a donné du temps. C'est dire justement la raison pour laquelle concrètement David va faire la faute, elle vient de ce que Adam a fait la faute. Adam, quand il a été créé avec la possibilité de transgresser. Mais il n'était pas nécessaire qu'il transgresse. À partir du moment où il transgresse, il fabrique un autre monde en quelque sorte. Adam, la suite de sa faute, le monde est changé. C'est un monde dans lequel il y a une réalité concrète de la faute. Mais David, il est toujours là pour montrer la tchouva. Seulement cette fois-ci, il va devoir montrer la tchouva avec une faute concrète. Pas le principe de la tchouva, mais avec une faute concrète. Et d'un autre côté, cette faute-là, elle n'a pas besoin de lui correspondre. Parce que il va faire la faute uniquement que parce qu'on est maintenant dans un monde dans lequel la faute est possible concrètement et elle doit être réparée et elle peut être réparée aussi. Et donc, Adam va lui donner des années pour qu'il montre que sur une faute réalisée, on peut faire tchouva. C'est ce dont Adam a besoin. Adam, lui, il a fait la faute. Et ça ne lui était pas du tout évident qu'il puisse faire tchouva. Il y a un midrash qui dit que Adam, il a tout à coup rencontré, à un moment donné, il a rencontré Caïn. Après que Caïn ait tué Evel. Et il lui a dit, visiblement, il ne se parlait pas beaucoup. Tu vis encore ? Comment ça se fait que tu vis encore après avoir massacré ton frère ? Comment t'as fait ? Il a dit, j'ai fait tchouva. Et du coup, c'est Caïn qui a enseigné à Adam la possibilité de faire tchouva. Quand David Ameler dit, dans le premier chapitre du Hallel que nous disons, il dit, « Mekimi me'afar dal, me'ashpot yarim evion » Ce Hallel-là, qu'on appelle le Hallel Amitzri, parce qu'il a été dit par les ministres qui sortent d'Égypte, ce Hallel-là, il correspond à la construction de la royauté de David, qui justement est une royauté qui est construite sur l'élévation à partir de Me'ashpot, c'est-à-dire du fumier, de la poubelle, Yarim Evion. Il élève celui qui est déjà, qui est tombé au plus bas, quoi. Il est sur son fumier, il est dans sa poubelle, littéralement. Et Hachem Yarim, il l'élève, le pauvre qui est... C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu l'élève au plus haut, en quelque sorte. Et on dit que c'est la raison pour laquelle Hallel, ça a la même gematria que Adnout, c'est 65. Hey, 5, Lamed, c'est 2 fois 30, c'est 65, c'est la même gematria que Adnout qui est ici. Parce que ce Hallel correspond, avec ce qui est dit, Me'ashpot Yarim Evion, à la malchoute, à la royauté de David. Et c'est ça qu'ils disent que les trois lettres de Adam, ça correspond, le Aleph de Adam correspond à Adam. Le Dalet correspond à David et le même correspond au Mashiach. Donc Adam porte en lui, Adam et Mashiach. Parce que la réparation de la faute de Adam Arishon, elle a lieu par le Mashiach, qui est le descendant de David. C'est David qui a réparé, mais la réparation complète, elle est par son descendant. Alors, pour revenir à ce qu'on avait dit, qu'au Sinaï, les Bnei Israël ont retrouvé le niveau de Adam avant la faute, c'est-à-dire que la trace de la faute a disparu. D'après ça, ça veut dire que au Sinaï, il s'est dévoilé une deuxième version d'Adam Arishon avant la faute. C'est comme si on recommençait tout, je redonne un Adam Arishon. Sauf que cette fois-ci, cet Adam Arishon, c'est le Klal Israël. Cet Adam qui jusque-là était mortel, depuis la faute, il redevient une figure de Adam sans trace de la faute, donc sans trace de la mort. Et on comprend bien que, du coup, la naissance de David a à voir avec Shavuot, puisque la vie de David, elle est à ce point fortement liée avec cette capacité de faire disparaître la trace de la faute, puisqu'il a inventé, il a montré que même sur une faute concrète, on pouvait faire tshuva, c'est-à-dire faire disparaître la trace de la faute. Ça veut dire qu'après qu'on ait compté les 49 degrés comme il faut, on accède à la naissance de David le 50e jour, puisque maintenant les 49 degrés d'impureté ont été transformés en 49 degrés de pureté. Si on y réfléchit, on s'aperçoit que après que 49, qui correspond donc à Moab, bon, même Vav Alephbet, dont on a dit que Moab sont des gens qui ne peuvent pas entrer dans le clan d'Israël. Les gens de Moab, on ne les accepte pas dans le clan d'Israël. C'est-à-dire, on n'accepte pas leur conversion. Parce que, en eux, ils portent ces 49 degrés d'impureté. Ils sont, de manière. Or, David va naître de cette femme-là, issue de Moab, à laquelle on vient au moment où ça se passe, où elle va se marier avec Boaz, on revient, à laquelle on vient de donner la possibilité d'entrer dans le clan Israël, puisqu'on a fait cette dracha qui dit que seuls les hommes de Moab sont interdits d'entrer dans le clan Israël, mais pas les femmes. Et donc, dans David, il y a cette idée, il y a cette notion cette transformation des peuples, même ceux qui sont enfoncés dans les 49 degrés d'impureté, eux, on peut les transformer. Et ils vont reconnaître Hachem. Ça veut dire que, fondamentalement, il y a dans le monde deux fois Adam Harishon. Une fois avant la faute, et une deuxième fois à Shavuot, lorsque David naît, dont les années de vie viennent d'Adam Harishon, c'est-à-dire de quelqu'un qui avait des années de qui essentiellement, dont essentiellement les années de vie étaient les années de vie éternelle. Parce que la vie qui avait été donnée à Adam Harishon, c'est une vie éternelle. Parce qu'il n'était pas, censé mourir, si, il n'avait pas fauté. On montre donc que la naissance de David a directement à voir avec Shavuot, avec Matan Torah, puisque le Yom Tov de Shavuot, il vient de ce que, justement, à ce moment-là, il a été on a supprimé justement la trace de la faute. Et donc, il y a eu ce lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, au point que le monde entier est devenu un monde de vie éternelle. Et David est celui par lequel cette lumière-là s'exprime concrètement. D'après ce qu'on a vu, la force de David, donc sa capacité dévoilée, que même après que, à la suite de la faute du veau d'or, la trace de la faute est redevenue et se réinstallée en quelque sorte dans l'humanité, dans le clan Israël, il a montré, David, enfin, il a cette possibilité de montrer que tout peut revenir en quelque sorte. Il a montré la tchouva, tout peut revenir. Il faut montrer que ça, en réalité, ça lui vient de son ancêtre, Ruth, qui elle a transformé ce démoav, c'est-à-dire l'impureté, en Sade Asher Berchou Hashem, en un chant qui a été béni par Hashem, qui est la Malchut, comme c'est la royauté en fait. C'est pour ça qu'on dit que, c'est ça que ça veut dire quand on dit Keter, que la couronne c'est la gematria de Ruth plus celle de David, parce que Ruth a mis cette racine-là, cette possibilité-là en David. Seulement les deux ensemble, David tout seul, c'est pas possible, ça suffit pas. Dévoiler le Keter, c'est seulement possible si on y ajoute Ruth. En Rambam, c'est marqué que la malchut, la fonction de la royauté, c'est dit le Rambam, Yekabetz kol. Ou Matéinou, il le dit sur le Mashiach, parce que pour lui, c'est la royauté à venir, c'est la royauté du Mashiach. Yikabetz kol ou Matéinou, il rassemblera tout notre peuple. Vianigenu, il le dirigera. C'est-à-dire qu'en fait, le roi, la royauté du Mashiach, va être capable de rassembler toutes les forces, même d'impureté, qui justement s'opposent. S'oppose et tout ça, il va le rassembler dans la malchoute, dans la royauté. Et c'est ça le propre de la royauté, cette capacité de rassembler même ce qui s'oppose à la royauté, en fait. Le rassembler pour les amener à reconnaître Hachem. Donc cette notion de ce nom qu'on a donné à Ruth d'être Imash el Malchut, elle est la mère, pas la mère du roi, mais la mère de la royauté. Et c'est la comparaison qu'on a faite entre Ruth et Rachel et Léa, qui sont les mères, les matriarches, qu'elle est aussi la mère, parce que ça n'est que grâce à Ruth que Ruth plus David peuvent dévoiler la couronne, le monde d'en haut. On sait que, disons c'est un peu le Kabbalah, mais que dans le tétragramme, Yud, et puis il y a deux fois un He dans le tétragramme, la lettre He. Et ces deux He correspondent à Léa et à Rachel. Et ça vient dire ici que Rachel et Léa, elles dévoilent la royauté, puisqu'elles vont être, elles, à la source de tout le clan d'Israël. Le renouveau, le dévoilement de la couronne divine qui a lieu avec Ruth et David, donc Mashiach, etc., et où on dit que Ishmour Chokim, que les gens même de loin viendront et reconnaîtront et donneront à Hachem la couronne. Donc, ça, c'est en fait c'est spécifique de Shavuot, parce que c'est à ce moment-là que toutes les lumières sont descendues dans le monde sous la forme de, parce que comme on avait dit juste en passant, que les piliers lumineux du monde sont au nombre de 620, et 620 c'est le nombre de lettres de la Aseret HaDibrot. Donc dans ce dévoilement là tout ce texte là il est, peut-être ça vous a évidemment frappé, peut-être on se demande que il y a le message de tout ce qui est dit par le texte, et puis il y a tout ce qui est circulé ici, qui circule par le biais des valeurs numériques, en fait. Sans arrêt, il y a une double lecture. Il y a la lecture de ce qui est dit vraiment, il y a la lecture de la valeur numérique des choses, y compris la valeur cachée, le numérique caché des choses. C'est comme s'il y avait plusieurs messages. Ça veut dire, c'est pas du tout que c'est, il y a que le message chiffré. Il y a le contenu d'un certain Dibrot. Il n'y a pas que le fait qu'il y a 620 lettres. Bon, ça n'épuise pas le sujet. Mais en même temps, il faut dire que ce texte-là, qui apparaît comme un texte, c'est un texte édifiant, c'est un texte très important et tout, au fond, il représente encore autre chose. Il représente toute la lumière du monde, en quelque sorte, qui a été donnée à Shavuot. Et toute cette lumière du monde n'a pu être donnée que parce que Ruth a fait ce travail de venir de l'extrême Touma, en fait, à l'extrême, c'est-à-dire à être celle qui va permettre à la couronne divine, en quelque sorte, de se dévoiler dans le monde. Pour mesurer d'où Ruth vient, il faut se souvenir que justement, quand Naomi a quitté Moab, les plaines de Moab, elle avait ses deux brus, ses deux belles filles qui sont venues avec elle. Naomi avait deux fils qui sont tous les deux morts et qui avaient épousé tous les deux des princesses moabites. Et il y avait Ruth, mais il y avait aussi, enfin celle qui va donner Ruth, mais il y avait aussi celle qui s'appelle Orpa. Et Orpa est partie aussi avec Naomi. Mais elle n'a pas tenu la distance, en fait. Et pour savoir ce que ça représentait de qui était Orpa, il faut regarder ce qui s'est passé dès qu'elle s'est séparée de Naomi. Elle a complètement tout a été perdu. Et elle est là, Orpa, c'est la mère de Goliath. C'est donc l'ennemi de David. C'est-à-dire que les deux ont eu deux princesses ont eu deux descendants qui ensuite vont s'affronter à mort, quoi, si vous voulez, qui sont David et Goliath. C'est-à-dire que quelque part, la royauté de David n'a pu se faire que parce qu'il a vaincu Goliath, qui en fait défiait toutes les valeurs de la Torah. Et tout ça, c'était dans Orpa. Goliath, il est de Orpa comme David est de Ruth. Encore un point. Naomi a dit à Ruth, elle lui a dit, allô Boaz, Udatenu. Boaz, c'est notre proche. Et tu vas, Rachatz, tu vas te baigner, tu vas toindre, tu mettras tes beaux habits, en fait, et tu descendras vers les greniers de Boaz. Et Chazal explique, ils sont d'Oresh, ce verset, ils disent comme ça. C'est écrit dans le Passouk, c'est écrit Zahor et Yom HaShabbat le Kadcho. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Bame Atam et Kadcho. En quoi est-ce que tu sanctifies le Shabbat? Bemaachal, Bemishte, Beksut Nekia. Avec des nourritures, des boissons et des vêtements. Amar Rabbi Hanan, Hanan a dit, Mikan, Tsarich Adam, Shiyelo, Shte Atufim. De là, on apprend que l'homme doit avoir deux, en fait, c'est deux fichus, quoi. Deux vêtements dans lesquels il peut. Deux vêtements, un pour la semaine et un pour le Shabbat. Du fait que. Et il dit que dans le verset, d'où est-ce qu'on l'apprend vraiment? On l'apprend de ce que Naomi a dit à Ruth, tu vas prendre, dans notre langage, on dirait, tu vas prendre ta douche, tu vas te toindre, te parfumer, mettre ton vêtement. Ça veut dire, elle lui a dit, tu mettras ton vêtement, la dracha c'est, tu mettras ton vêtement de Shabbat. Shabbat, et dans la halakha, dans Shabbat, dans la maseret Shabbat, on dit aussi, il y a une mitzvah de se laver spécialement pour le Shabbat, de se parfumer ou de soindre, et de mettre des vêtements spécifiques. Et ça, c'est les bigdei Shabbat. Donc on voit que Ruta Moavia, quand elle est allée chez Boaz, elle y est allée avec ses vêtements de Shabbat. Et la question qui se pose, c'est mais pourquoi fallait-il qu'elle mette les vêtements de Shabbat si ce n'est pas Shabbat? Elle descend au grenier, a priori là-bas elle va travailler dans ce grenier, elle va glaner. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'explication, c'est que Ruth, quand elle va dans ce grenier, donc quand elle descend à cet endroit-là, Lehavi menucha laolam. Elle va amener la menucha, elle va amener la sérénité dans le monde par le biais de la naissance de David, c'est-à-dire mettre en marche le processus du Mashiach. Or, les temps messianiques doivent amener le monde dans l'état du Shabbat. C'est pour ça que il fallait que le mariage, puisque ça va déboucher sur un mariage, que le mariage de Ruth et de Boaz soit fait avec des vêtements de Shabbat. C'est-à-dire des vêtements qui viennent donner du poids au Shabbat, c'est-à-dire à la royauté divine qui va déboucher sur le Mashiach qui amène le Shabbat du monde. Donc c'est ça que les Chachamim ont appris de ce que Naomi a dit à Ruth, cette préparation nécessaire pour aller rencontrer Boaz. On voit très bien que il y avait là toute cette histoire, il s'agit de construire, c'est évidemment une explication qu'on donne nous après coup, mais ce qui se jouait là, c'est jouer la construction du Shabbat du monde, enfin d'amener le monde dans le Shabbat, c'est-à-dire d'amener le monde à la royauté, à la reconnaissance de la royauté divine, c'est-à-dire le Mashiach, et que le Mashiach amène le monde à la situation du Shabbat, c'est-à-dire au Olam Haba, en fait. Et pour ça, ce qui est intéressant, c'est que la préparation, c'est de le vivre déjà maintenant. Quelque part, nous aussi, le Shabbat que nous faisons, c'est un Shabbat qui est Me'enu Olam Haba. Ça veut dire on essaie de vivre déjà le Olam Haba, dans la mesure où on peut le vivre le Shabbat. Dans ce monde-ci, ça veut dire. Donc, c'est pas que, on peut réfléchir à ce que devra être le Shabbat. Pour arriver au Shabbat, eh bien, il faut le vivre déjà maintenant. Pour que le monde puisse arriver au Shabbat, il fallait que Ruth vive le Shabbat dans sa relation avec, lorsqu'elle va construire la relation avec Boaz, il faut déjà qu'il y ait du Shabbat dans la construction, en fait. Et nous, notre accomplissement du Shabbat, c'est en vue de la construction. C'est déjà une construction du Shabbat à venir, donc du Olam Haba. C'est ça que je voulais apporter ce soir, comme commencement de. Je ferai, un cours de Shiurim, et lundi soir, non, dimanche soir, sur Shavuot, mais le Shiur de Parshat HaShavua, on le fera normalement. Donc, au lieu de Mesilat HaSharim, il y aura encore deux séances de prépa pour Shabbat, pour Shavuot. L'inverser, elle avait pas beaucoup de, elle avait pas à se forcer, elle l'avait en tant que fille du roi.
Et on dit que David, lui, ce qu'il a apporté, c'est la possibilité de chouva effective sur un faute accomplie. Pourquoi fallait-il que David
C'est possible qu'il faille répondre en disant que la Touma c'est une chose et la Avera c'est une deuxième chose. C'est-à-dire que elle c'était pas en termes d'Averot. Moab c'était la Touma bien plus profonde, si on peut parler que. C'était pas simplement qu'il respectait pas les Shema Mitzvot des Bnei Noach. C'était vraiment la Touma. Mais ensuite, on est dans le monde où. Nous, on est dans. Les Bnei Israël sont dans un monde de mitzvot. Le monde où les choses. Où on va donner une valeur à la transgression. On pourrait dire, transgression, ça ne fabrique pas de la Touma. C'est vrai, le problème de la Touma, elle l'a réglé. Lui, il doit régler le problème de la faute. Quand on transgresse une parole divine. On disait. Le propre de Moab, ce n'est pas qu'il transgresse la parole divine. Ils sont dans la Touma la plus profonde. Toute la civilisation de Moab, c'est la Touma. Et donc il fallait les deux. Elle a réglé le problème de la Touma, et lui, il devait régler le problème de la faute.
Même une fois sorti de la Touma,
il reste encore le problème de l'obéissance, enfin de des mitzvot.
Donc le rôle de David avec le fait que, effectivement, comme vous l'avez rappelé, Caïn a enseigné à Adam Arishon et la faute réellement commise et qui était encore pire que celle qu'on peut envisager avec David et la possibilité de Shiva. La seule chose que j'ai trouvé en réfléchissant, c'est que je m'étais dit, mais Caïn, il n'a pas survécu dans le monde, mais après, je me suis rappelé, il a survécu par Naama, justement, la femme de Noé.
Si c'est elle.
Si
c'est sa descendance.
Et alors, dans ce cas, je me suis dit, c'est peut-être curieux que justement soit Naama, l'autre peuple bancal, qui se retrouve effectivement.
Avec une Naama qui n'est pas elle, mais. Pardon? C'est pas elle, évidemment. C'est une autre Naama, elle porte le même nom.
C'est une autre, mais qui étrangement, a ce nom-là, et serait. Je ne sais pas si. Est-ce que ce serait récupéré par là? Parce que. En réalité, on ne comprend pas pourquoi c'est David qui aurait dû jouer ce rôle de l'image, parce que Caïn, avant lui, et pour il avait bien pire, mais c'est vrai que l'acteur n'était pas donné, mais il a enseigné la Teshuva. Donc je ne comprends pas comment lui, on l'évite dans tout le raisonnement en fait, qu'il prend.
Parce que, en fait, ce que David montre, en fait, c'est la possibilité de faire Teshuva. D'abord après Matan Torah, ça c'est clair. C'est-à-dire, c'est un autre monde. C'est peut-être dans le sens, la suite de la question de Charlie. Ça veut dire, c'était sur la Touma, quoi, quelque part. C'est une faute, mais c'est le monde de la Touma. Et lui, il fallait qu'il le montre dans le monde, peut-être dans le monde d'Israël. Peut-être que tout est à recommencer à partir du moment où les Israël sont sortis d'Égypte. C'est une nouvelle naissance, donc tout est à refaire. Parce que en fait, il n'y a pas que Caïn. Reuven aussi, il a fait tchouva.
Oui, c'est vrai.
Donc lui aussi, donc Reuven, il a fait tchouva de ce bilboul de la couche de son père. Pas à cause du mot Guérout. Hein. Non, c'est pas du tout ça. C'est par rapport à la Guérout, à la démarche de Guérout, mais pas, ça n'a rien à voir avec.